Vivacité, ma radio complicité. Vie du bon côté sur Vivacité.
Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi 15 avril. J'espère que vous avez bien profité ou de ce congé de Pâques ou peut-être pas de congé mais de quelques belles journées malgré tout ensoleillées, surtout peut-être aussi de cette belle journée d'hier, dimanche. Alors nous allons parler aujourd'hui d'un sujet, c'est vrai, difficile, mais nous avons décidé de l'aborder d'une façon... Légère, c'est difficile. Ce mot est peut-être difficile à digérer dans le cadre d'une situation comme celle-là, mais en tout cas, d'essayer de trouver des ressources pour pouvoir aborder un sujet comme celui-là. La perte d'un être cher peut bouleverser, on le sait, tout un équilibre de vie. La disparition de l'autre propulse dans une situation où parfois il faut se débrouiller autrement, déployer ou trouver d'autres ressources, même s'il y a des étapes connues du deuil, choc, déni, colère, abattement, résignation, acceptation, reconstruction. Elles ne sont pas nécessairement toutes vécues ni dans cet ordre-là. Par contre, l'entourage, la famille, les proches, les amis du veuf ou de la veuve, dans ce cas-ci, peut s'attendre à certains types de réactions et même inconsciemment tenter de les provoquer. Alors que certains se sentent investis d'un rôle de sauveur, ils vont se montrer très présents, insister aussi pour que la personne s'exprime, pour qu'elle soit toujours en compagnie. Certains auront peut-être aussi du mal à cacher leur étonnement que le veuf ou la veuve puisse encore rire ou encore vivre sereinement cette nouvelle liberté, parfois c'est mal pris. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Lorsqu'un conjoint décède, après des années de vie commune, il y a lieu de se reconstruire. Mais comment se reconstruire après la perte d'un conjoint? Comment oser s'octroyer le droit au plaisir? Voilà notre sujet. Et on vous demande de témoigner donc 070 23 33 23, SMS 30 63, de témoigner ou à visage découvert, ou sous couvert de l'anonymat, c'est possible aussi. On parlera ce lundi d'acceptation de cette nouvelle réalité, l'autre n'étant plus là bien sûr, mais l'ancienne vie non plus, il faut accepter une nouvelle vie. Avec vous, Marie-Pierre Preud'homme, nous allons aborder le sujet de l'hypnothérapie. En quelques mots, redéfinissez un peu ce qu'est l'hypnothérapie, Marie-Pierre.
Donc l'hypnothérapie, c'est un travail qui s'effectue au niveau des ressources personnelles. Donc on va solliciter l'inconscient à se manifester et par cette activation de l'inconscient, stimuler les ressources de la personne. Donc dans le cadre du travail sur le deuil, quelle que soit l'étape, hein, parce que vous avez cité les différentes étapes, encore que tout le monde ne passe pas spécifiquement par ces étapes ni dans cet ordre-là, néanmoins l'étape ultime souhaitée, si on peut l'appeler comme ça, c'est l'étape de reconstruction. Et pour arriver à cela, ben, on a besoin de mobiliser ses ressources personnelles, parce qu'on a pu peut-être beaucoup se reposer sur l'autre ou fonctionner en tout cas en fonction de l'autre, puisqu'il était là. Donc quand il n'est plus là, on doit vraiment apprendre à fonctionner autrement et relier une nouvelle relation à l'absent et relier une nouvelle relation aux autres et à soi-même. Donc l'utilisation des ressources est plus qu'importante à ce moment-là. Et l'hypnose, c'est vraiment un très très bel outil pour aider à ça.
On vous demande aujourd'hui de témoigner sur le fait d'oser s'octroyer le droit au plaisir après un deuil. Voilà notre sujet donc de ce début de semaine, ce lundi. Comment vous êtes-vous reconstruit après la perte de votre conjoint ou d'un être cher? Ce sont des propositions que nous avons mises sur Facebook, sur la page Facebook de l'émission, qui vous sauteront aux yeux et sur lesquelles vous pourrez cliquer. En acceptant une nouvelle vie, une vie qui ne sera plus jamais la même, en me déculpabilisant de me sentir bien dans ma nouvelle situation, en m'octroyant le droit de faire des choses pour me distraire ou encore en m'autorisant des distractions, des loisirs que nous n'avions pas ensemble auparavant. Voilà les propositions sur lesquelles vous pouvez réfléchir sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui.
Jusqu'à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré.
Et avec Marie-Pierre Preud'homme, qui est praticienne en thérapie brève, dans l'hypnose, dans l'EFT, avec une orientation systémique aussi. Comment s'octroyer le droit de faire des choses après un deuil, de se distraire, d'oser s'octroyer du plaisir, encore du plaisir à vivre? Comment exprimer son ressenti aussi à son entourage? Comment se déculpabiliser de se sentir bien? Ça aussi, c'est la question qu'on vous pose. Et on a eu l'envie de faire cette émission par rapport à des témoignages que nous avons déjà déjà récoltés quand nous abordons des sujets sensiblement similaires à celui-ci avec Marie-Pierre Prudhomme. C'est vous, Evelyne, qui allez témoigner, qui êtes la première à apporter votre témoignage. Merci déjà, Evelyne. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Evelyne.
Oui, bonjour.
C'est votre fils qui est décédé, Evelyne, il y a quelques années maintenant.
Oui, bon, maintenant, bon, j'étais presque vieille. Et ben voilà, mon fils avait 28 ans et ma fille 24. Et bon, voilà, il est mort. Enfin, bon, peu importe les circonstances. Enfin, il ne s'est pas suicidé, ça, c'est déjà ça. Mais... bon, c'était accidentel. Nous, on n'a jamais voulu culpabiliser ou bien montrer qu'on était trop triste vis-à-vis de la fille, parce que ma fille, elle avait le droit de vivre, de continuer sa vie sans avoir le poids du deuil du fils. Mmh. Et ça a été très mal pris par la famille. C'est ce qui me fait encore le plus mal, parce que j'ai plus vu mes beaux-parents pendant 2 ans, parce que ils disaient qu'on n'était pas assez triste, on n'était pas assez triste pour eux, mais pour ma fille, on a voulu avoir une vie normale.
Oui, vous avez assumé cet état d'esprit-là. Hein. On peut parler d'état d'esprit.
Oui.
Ça n'enlève pas le deuil, ça n'enlève pas évidemment la perte de votre fille. C'est un état d'esprit que vous avez voulu pour
mais
votre fille.
Mais pourquoi est-ce qu'on est critiqué pour ça, quoi ?
Oui, ça c'est la question évidemment. Et c'est autour de cette question-là que nous vous demandons de témoigner aujourd'hui. Et c'est pour ça, Marie-Pierre, qu'on avait décidé ensemble de faire un sujet comme celui-là. Là, on est dans quel type de ressources ?
Donc ici, ce qui est intéressant, c'est de constater un peu tout le poids social, tout le poids de la famille qui est là pour soutenir, mais qui est devant quelque chose qu'elle n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire perdre un enfant, et on sait ce qu'il y a de plus douloureux comme deuil, parce que le parent voit son enfant qui est en pleine forme, qui est en train de se développer, qui devient adulte ou qui est déjà adulte et qui se lance dans la vie. Donc il y a une idée vraiment de cassure qui est insupportable. Et quand les proches voient que les parents semblent survivre à ça, c'est très très déstabilisant. Leur attente est que tout le monde soit écroulé et que les parents soient complètement ravagés par ce qui arrive, et où eux seraient normalement dans un rôle de venir secourir les parents. Et donc il y a toute cette attente consciente et surtout inconsciente qui est là, de quel rôle je vais occuper lors du décès d'un membre de la famille. Et si la réponse qui est donnée par les proches n'est pas celle à laquelle on s'attendait, à ce moment-là, ça peut générer toutes sortes de réactions, dont visiblement ce que Evelyne a vécu, et qui sont très très dures à pouvoir vivre. Mais ce qui est important de voir, c'est que tout ça est fondé sur des intentions positives. L'autre est quelque part déçu de ne pas pouvoir aider dans cette épreuve-là, et il est déstabilisé. Donc ça donne lieu à des réactions qu'on ne peut pas toujours comprendre.
Oui, c'est ça. Donc là c'était un autre critère à prendre en considération. C'est, comme vous dites, la famille qui ne peut pas secourir, les personnes qui veulent être en effet des personnes secours, des personnes recours, et qui n'ont pas ce rôle et qui finalement sont déstabilisées. C'est tout à fait différent.
Qui sont déstabilisées et... osons le dire, ça peut parfois mener à des comportements qui pourraient vraiment enfoncer à ce moment-là la personne qui est la plus endeuillée et qui est la plus proche de la personne qui est décédée. Et c'est un peu comme si on enfonçait la personne pour enfin pouvoir se donner l'occasion de l'aider, quoi.
Bon, ben voilà une première réflexion grâce au témoignage d'Evelyne. Merci beaucoup, Evelyne, d'avoir pris la parole. Encore une fois, vous abordez ce sujet-ci, soit à visage découvert, soit sous couvert de l'anonymat. On se comprend, bien entendu. 070 23 33 23, SMS 30 63, osez s'octroyer le droit au plaisir après un deuil. On vous demande de témoigner donc de cette nouvelle réalité. Quand l'autre n'est plus là, c'est vrai qu'on a plus pris en considération une situation de couple, donc un conjoint qui s'en va, un compagnon qui décède ou un mari. Donc comment à nouveau se reconstruire après la perte d'un conjoint? 3063 pour vos messages. Dans la vie du bon côté, osez s'octroyer le droit au plaisir après un deuil, après la perte d'un conjoint, d'un être cher, quel qu'il soit. Encore une fois, même si on avait pris ce cas de figure aujourd'hui de parler d'une situation de couple, vous êtes nombreux à témoigner pour la perte d'un être cher, d'un être proche, un être famille, quoi. Ouais. 070 23 33 23 SMS 30 63. Ce que je veux dire, c'est qu'on prend évidemment vos témoignages en considération parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et vous venez de le dire, Marie-Pierre Prodhomme, on parle de l'hypnothérapie. Vous nous parlerez un petit peu du travail que vous faites avec des personnes comme ça qui veulent, qui arrivent chez vous en disant je veux, moi, me reconstruire après la perte d'un être cher. Vous dites travailler sur le deuil, ça raccroche à la vie. J'ai noté votre phrase parce que vous venez de le dire hors antenne, simplement en discutant avec moi, mais c'est une phrase lourde, lourde de sens.
Oui, donc dans le travail que je fais d'accompagnement avec des personnes qui sont en deuil, c'est chaque fois un travail qui, moi, me renvoie à énormément de questions et qui certainement m'invite à me raccrocher à la vie et à raccrocher à la vie les personnes qui sont en accompagnement chez moi. Et la mort, en fait, mais sert à ça. Elle sert à nous rendre conscients de la fugacité, de la fragilité de la vie. Et donc, perdre un conjoint, perdre quelqu'un qui est proche, c'est très douloureux, évidemment. On parle de perdre un membre de sa famille. On peut avoir cette image d'arracher un membre. Et d'utiliser, justement, ces tragédies pour pouvoir sentir à quel point la vie... Ce n'est rien. C'est d'une très, très grande fragilité. C'est un instant et que chaque instant est vraiment unique et de revenir vraiment à apprécier chaque petit moment parce qu'on ne sait pas. Demain, dans 30 secondes, peut-être qu'on n'est plus là. Et donc, ce travail sur le deuil, c'est une invitation, en fait, que je fais à la personne de pouvoir revenir à l'instant et de pouvoir l'apprécier, d'apprécier la vie. J'entendais un philosophe dont j'ai oublié malheureusement le nom, qui disait qu'une des pires choses qu'on pourrait faire à l'homme, ce serait de le rendre immortel.
J'avais déjà entendu ça. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous aussi vous voulez prendre part à la conversation d'aujourd'hui. Oser s'octroyer le droit au plaisir après un deuil, comment exprimer ce ressenti à son entourage, comment se déculpabiliser de se sentir bien à nouveau, comment s'octroyer le droit de faire des choses, de se distraire et d'affirmer cela, comment sortir d'une idéalisation de l'autre et de la vie partagée à deux ou ensemble. Encore une fois, on prend le cas de figure d'une perte d'un être cher, quel qu'il soit. Avant de vous accueillir, Angélique, je lis le témoignage de Patrice sur la page Facebook. Patrice écrit « La vie nous oblige parfois à nous surpasser, nous remettre en question. On doit faire le bilan, ne rien oublier de ce que l'on a vécu. Mais à un moment, il faudra passer outre et essayer d'avancer avec les souvenirs du passé, bons ou mauvais, dans notre sac à dos que l'on trimballe toute la vie. Penser à la personne que l'on a perdue et du bon vieux temps est bon, mais après, on doit passer à autre chose, dit-il, pour continuer à vivre. Ce que pensent les autres n'a pas vraiment d'importance. Car on choquera toujours quelqu'un, quoi qu'on fasse. Chacun fait son deuil à sa façon et personne ne peut juger si c'est bien ou si c'est mal. Le veuf fait ce qu'il juge le mieux pour lui. Nous n'avons pas toutes les cartes pour oser juger.
Voilà. Oui, très très beau témoignage ou commentaire. Je ne sais pas si c'est un témoignage. Mais effectivement, un deuil n'est pas l'autre. Et le respect de la façon dont la personne vit le deuil est vraiment fort, fort important. Si elle demande de s'isoler, la laisser s'isoler, si elle a besoin de sortir, la laisser faire et certainement sortir de tout jugement, absolument. C'est une très très belle synthèse.
Oui. Belle réflexion aussi, Patrice, que vous menez là et que vous nous demandez de mener, tout un chacun. Angélique, bonjour.
Bonjour.
Vous parlez, Angélique, du décès de votre fils, vous aussi.
Oui.
Ce qui vous a interpellé, dites-vous, dans la situation, donc juste après le décès de votre fils, par rapport à vos collègues, hein, dans un premier temps, c'est qu'ils essayaient de vous protéger. Vous ne l'avez pas vu tout de suite. C'est après, avec le recul, que vous vous êtes rendu compte de ça.
En fait, tout de suite, je m'en rendais compte, mais c'est avec le recul que, bon, ils ont compris qu'ils devaient arrêter, quoi. Par exemple, je rentrais dans une pièce, les gens étaient de bonne humeur, ils souriaient, ils racontaient des blagues, je rentrais, on se taisait et on prenait une mine triste. Il y avait cette compassion, quoi, et au contraire, moi, j'avais besoin qu'on essaye de me changer les idées, j'avais besoin qu'on me raconte des blagues, à la limite, qu'on arrive à me faire rire, plutôt que de prendre ces mines d'enterrement et arrêter la vie. Et puis, j'avais des amis qui se retrouvaient enceintes, qui n'osaient pas l'annoncer, de peur de me blesser. Il y avait vraiment, en fait, autour de moi, les gens qui essayaient de me protéger, mais ça ne me protégeait pas du tout, au contraire. Ça avait davantage un effet négatif que positif, puisqu'à chaque fois, je vais dire que on ressort un petit peu la tête de l'eau, on reste dans ce marasme, cette tristesse.
Est-ce que vous leur disiez, Angélique ? Est-ce que vous leur disiez ça ? C'est votre façon de faire, finalement ?
Mais oui, parce que, ce qu'il y a, c'est que j'ai un humour parfois un peu noir, donc il y en a qui ne savaient pas trop, je leur faisais des réflexions, mais sur le ton de l'humour, mais il y en a qui le prenaient mal, qui ne comprenaient pas que c'était de l'humour, parfois je disais, ça va, Louis est mort, c'est bon, on peut arrêter de pleurer, quoi. Et je sais que ça en choquait certains aussi, quoi, mais c'était ma manière de réagir.
Oui, c'est assez interpellant, votre témoignage, et merci d'être là. Effectivement, la réponse qu'on peut amener aux autres n'est pas toujours évidente. Donc on peut avoir des mécanismes en fait de protection où on a envie que les autres soient présents, on a envie qu'ils marquent une certaine compassion. Et d'un autre côté, si on a besoin d'autre chose, on va avoir envie de faire passer ce message. Mais parfois, on n'osera pas par peur de perdre le contact avec les autres. Donc ça fait partie du travail qu'on peut faire en hypnothérapie où on va pouvoir sentir et travailler en quelque sorte l'assertivité et savoir, tiens, ça j'ai envie de faire passer comme message aux autres et ce n'est pas parce que je passe ce message-là que je risque de perdre leur attention parce qu'il y a une peur qui peut s'installer, je viens déjà de perdre une relation, je viens déjà de couper un lien qui était important. Comment puis-je faire pour garder le lien avec les autres ? Donc la relation aux autres peut vraiment être fortement impactée et on peut effectivement rentrer dans des dialogues où on dit mais on n'ose pas vraiment dire, où on est dans une forme d'humour, etc. Et on n'ose pas dire à l'autre, tu sais, ce qui me fait le plus du bien, simplement, c'est ça. C'est quand tu me dis ça. Ou, au contraire, ne fais plus ça.
Oui. Sandrine nous écrit par SMS au 3063 « Ma maman a perdu mon papa après 20 ans de vie commune. Elle commence à voir le bout du tunnel et trouver son propre chemin en faisant le deuil de celui qu'ils auraient pu avoir ensemble. Pas facile, dit Sandrine, mais je lui tire mon chapeau. » Encore autre message d'Olivier de Nivelles. « Après le décès de mon frère, j'ai appris par hasard via Facebook que ma belle-sœur avait rencontré quelqu'un. Je l'ai félicité, ce qui, je pense, l'a peut-être aidé. Vu les mots qu'elle m'a dit, c'est signé Olivier de Nivelles. » C'est en ce lundi, on vous demande de témoigner sur la perte d'un être cher qui peut bouleverser tout un équilibre de vie. C'est un sujet qu'on aborde assez souvent dans certains autres sujets d'émission, mais nous avons aussi souvent, et c'est ça qui nous rend bien, des témoignages de personnes qui sont arrivées à se reconstruire après la perte d'un être cher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait l'émission pour ces personnes-là, voilà. Et pour vous aussi, Marie-Pierre, puisque vous parlerez dans quelques instants de l'hypnothérapie. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. L'hypnothérapie qui peut vraiment vous aider à trouver des ressources. L'étude scientifique de l'hypnose en thérapie est en plein essor. Depuis le milieu du XXe siècle, de nombreuses études ont permis de mettre en évidence l'intérêt aussi de l'hypnose dans le traitement des troubles psychologiques. Le corps et l'esprit sont intimement liés. Là, vraiment, on en reparlera dans quelques instants, mais c'est vraiment quelque chose qui vous reconnecte au niveau du corps et de l'esprit. 070 23 33 23 SMS 3063 si vous voulez vous aussi prendre part à la conversation. Venir nous dire comment vous vous êtes reconstruit après la perte d'un être cher, comment vous avez pu oser vous octroyer le droit au plaisir, même si ça ne plaisait pas à certains membres dans votre entourage, parce qu'on en voit beaucoup qui témoignent de cet ordre-là.
De 14h à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré.
Avec Marie-Pierre Preud'homme, nous parlons de l'hypnothérapie, l'hypnose qui apporte une aide rapide et efficace pour chacune des grandes phases du deuil. Il est possible d'avoir recours à l'hypnose, comme on l'a dit en début d'émission, Marie-Pierre. Tout le monde ne passe pas par les mêmes étapes et au même moment aussi, par la même étape de reconstruction après le deuil.
Pour certains, on peut rester un petit peu plus longtemps dans la colère, pour d'autres, on peut rester dans un déni. Donc le déni, ça va par exemple être mettre les couverts et dresser la table pour la personne qui n'est plus là. On peut rentrer dans des phases de dépression, on peut rentrer dans des phases d'hyperactivation et des personnes... qui s'agitent, qui rentrent dans des très grands rangements et qui se mettent dans l'action. C'est une façon de pouvoir gérer le stress. Donc toutes ces étapes ne sont pas entre guillemets obligatoires. Il n'y a pas de durée spécifique pour faire son deuil. Ça dépend un peu de l'avant en fait, de l'état dans lequel on était avant que ça ne survienne. En ce qui concerne le travail en hypnothérapie, mais en fait, on pourra travailler sur plusieurs axes. D'abord, l'axe au niveau de la sollicitation des ressources. Ça, c'est un peu généraliste comme thématique. Mais donc, on va orienter, j'aurais besoin de ressources pour, par exemple, sentir que dans ma maison, je peux me débrouiller seule. Ou sentir que je peux demander à quelqu'un d'autre de m'aider qu'à mon conjoint qui n'est plus là. Mais on peut rentrer aussi par l'hypnothérapie dans des thématiques qui sont beaucoup plus pointues. Si par exemple on est dans le cadre d'un deuil où il y avait une union qui était plutôt de type fusionnel ou d'ordre de la dépendance et de la codépendance, avant de faire un travail sur le deuil, on va travailler, entre autres en hypnose, mais aussi avec d'autres pratiques dérivées de l'hypnothérapie, on va travailler pour régler ce problème de dépendance. Et puis après seulement, on va pouvoir travailler sur l'idée de deuil. Mais il y a un certain ordre dans lequel on doit pouvoir procéder pour aider la personne efficacement. Et l'hypnothérapie va vraiment aider à faire un travail en profondeur où le mental ne va pas venir court-circuiter l'aide qui est offerte.
D'accord. France est maintenant disponible.
Bonjour.
France, bonjour. Merci de témoigner vous aussi. Il y a 4 ans, votre mari décédé, vous laissant une fille d'11 ans, des jumeaux de 3 ans. Marie-Pierre vient de parler d'hyperactivité. Est-ce que c'est ça ou pas vraiment votre façon?
Oui, tout à fait. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que mon mari était un passionné de plein de choses qu'il n'a pas pu faire parce que il avait beaucoup de boulot, il était indépendant. Et donc, en fait, je crois que j'ai, à travers son décès, j'ai l'impression de m'être dit, maintenant, j'ai envie de faire plein de choses dans ma vie. Et donc, j'arrête pas de bouger, de faire des choses avec les enfants, de faire un tas de formation, notamment tout ce qui est théâtre et clown. Et donc, je suis très, très peu à la maison. Et dès que je peux, j'invite des gens, ou je pars, ou je fais des activités. Et donc, je pense que c'est ma façon à moi de pouvoir continuer la vie, je vais dire. Avec des amis très, très présents, une famille vraiment géniale.
Oui. C'est important de le dire, France, parce que jusqu'à présent,
d'une famille très présente, des amis et une thérapeute vraiment qui m'aide beaucoup.
Voilà, ça aussi c'est important, France. Donc il y a deux choses importantes à dire, c'est que vous suivez une thérapie, donc et je voulais, Marie-Pierre, vous redonner la parole pour ceux et celles qui ont vraiment des difficultés pour aller chercher les ressources dont ils ont besoin. C'est qu'il y a moyen de se faire aider, notamment par l'hypnothérapie. Et ce que disait France aussi, je ne sais plus. Voilà, j'ai oublié la deuxième chose.
France, c'est félicitations France pour cette voie que vous avez trouvée, parce que c'est effectivement la meilleure des voies. C'est de pouvoir rendre vivant l'autre et de se demander mais qu'est-ce qu'il aurait apprécié que je fasse maintenant,
oui, voilà.
Et de pouvoir, mais comme vous l'avez fait, réaliser ce que vous vous dites, ben tiens, oui, effectivement, il avait beaucoup de travail et il rêvait de pouvoir faire d'autres choses. Et moi, maintenant, je fais ces choses. Et ça, c'est vraiment une très, très bonne façon de pouvoir vivre autrement. Donc, dans l'accompagnement au niveau du deuil, on va aider la personne à restaurer la relation qu'elle a vis-à-vis du défunt ou de la défunte. On va apprendre à vivre avec l'absent et on va apprendre une nouvelle relation de soi à soi. Et tout ça, ben, c'est ce que France exprime qu'elle l'a fait. Et de retisser aussi d'autres liens. Et là, elle parle d'une famille et d'amis qui sont présents. C'est parfois l'occasion, enfin, si on peut parler d'occasion, le terme n'est pas vraiment bien choisi, mais ce type de circonstances de vie fait que parfois on se mobilise vers d'autres personnes et que on peut lier des liens et rentrer dans d'autres relations très très profondes et se connecter d'une autre façon. Un des points qui est vraiment fort fort important au niveau de la gestion du deuil, c'est de rechercher l'affection. On a, pendant cette période de vie commune, de l'affection qu'on partage. On a un échange avec l'autre. Je parle de relations classiques. Je rentre pas dans le cadre de relations où il n'y a pas l'affection, mais on va prendre quelque chose qui est plutôt général. Donc, quand on perd l'autre, on perd tout cet échange au niveau affectif. Mmh. Donc, pouvoir recréer ça et le rechercher ailleurs. On parle pas de sexualité, je parle de relations dans l'affection et de contact avec l'autre. Ça va pouvoir être, par exemple, se rapprocher de ses petits-enfants, de les serrer dans ses bras, ou même d'avoir un animal de compagnie, et d'avoir vraiment cet échange. C'est un peu comme si on se disait, mais tiens, j'avais telle dose d'affection, et je vais retrouver ça, je vais reconstruire ça autrement. Et encore une fois, là, on fait un travail qui peut vraiment être intéressant et très très profond en hypnose pour ouvrir le champ des possibles et percevoir que ce qu'on avait d'une source, on peut l'obtenir de bien d'autres sources. C'est ouvrir le champ des possibles et voilà, l'hypnose, vraiment un outil magnifique pour l'ouverture du champ des possibles.
Je vais mettre dans quelques instants votre site internet, hein, Marie-Pierre, parce qu'il y a des personnes évidemment qui entendent vos propos et qui seraient heureuses de prendre contact avec vous, avec quelqu'un qui pratique l'hypnothérapie. C'est vraiment ça l'objectif aussi d'une émission comme celle-ci, c'est de vous apprendre qu'il existe cet outil-là qui peut aider certaines personnes qui le désirent, bien entendu. 070 23 33 23, SMS 30 63, un message qui fait écho peut-être à ce que vous venez de dire. Après 45 ans de mariage sans séparation, car même au travail ils étaient ensemble, mon papa vient de tirer sa révérence. Il aura fallu du temps pour que maman semble aller mieux. Elle vient d'acquérir un petit chien afin de combler le manque de présence. Je la félicite pour cette décision. C'est un message que nous venons de recevoir. Je viens de mettre à l'instant votre page Facebook, Marie-Pierre Preud'homme, sur la page La Vie du Bon Côté, parce que en allant sur cette page-là, qu'est-ce qu'il est possible de faire?
Donc, en étant fan de la page Hypnose Liège, lorsqu'on a cliqué sur j'aime, on découvre une rubrique cadeau. Et dans cette rubrique cadeau, il y a la possibilité de télécharger gratuitement une séance d'hypnose sur le lâcher prise, ce qui peut toujours servir.
Tout à fait, et de voir un petit peu ce dont il s'agit pour ceux et celles qui n'ont jamais approché l'hypnose, qui ont déjà entendu parler de l'hypnose, l'hypnothérapie, sans vraiment approcher cette méthode-là. Voilà, vous pourrez donc, en guise d'introduction, accéder à cette petite séance sur le lâcher prise. Vous êtes à Liège, à Esneux. Oui. Précisément, c'est là-bas que vous exercez, Marie-Pierre Preud'homme. Voilà, jusqu'à 15h30, on attend vos témoignages. 070 23 33 23.
La vie du bon côté, de 14h à 15h30, sur Vivacité.
Marie-Pierre Preud'homme est notre invitée, praticienne en thérapie brève, dont l'hypnose, l'EFT, avec une orientation systémique. Nous parlons aujourd'hui de cette reconstruction après la perte d'un être cher, lorsqu'un conjoint décède. C'est le cas de figure que nous avions pris pour pour réfléchir au thème que nous allions aborder aujourd'hui, après des années de vie commune, il y a lieu de se reconstruire. Comment ont fait les personnes qui sont arrivées à se reconstruire? Et si thérapie il y a, est-ce que l'hypnothérapie a fait ses preuves pour ces personnes-là? 3063 070 23 33 23, comment exprimer son ressenti face à son entourage qui ne comprend peut-être pas la réaction aussi face à un deuil, alors que nous avons tous une réaction différente face au deuil? Comment sortir d'une idéalisation de l'autre? Comment sortir de la vie partagée avec l'autre? Comment reconstruire son identité dans le cas, par exemple, de relations fusionnelles? Vous avez parlé de relations affectives. Il y a aussi le cas de relations fusionnelles et je vois aussi des messages qui nous arrivent au 3063 de cet ordre-là. Kevin est en ligne. Bonjour, Kevin.
Bonjour.
Bonjour.
Vous parlez, Kevin, du décès de votre compagne à la naissance de votre fils il y a juste un an.
C'est ça, oui.
Vous avez perdu votre conjoint des suites de l'accouchement, voilà.
Oui, voilà.
Ça fait juste un an.
Oui, il y a un peu plus d'un an maintenant et l'accouchement s'est très mal déroulé et malheureusement, il y est resté. Mais il a fallu continuer à vivre quoi, pour le petit bout et voilà, ce qui n'a pas été de l'ordre de la compréhension de ma belle famille, bien entendu. Et qui n'ont pas compris ma réaction, que j'ai continué à vivre et garder la joie, bien entendu, de m'occuper de mon enfant, de changer d'emploi, et quoi que ce soit pour être plus proche de mon enfant, ils n'ont pas très bien compris. C'était un peu dur des fois, parce que les remarques fusaient d'un peu toutes les parts, et voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous mettez de l'énergie encore à essayer de leur faire comprendre, ou vous vous dites... Voilà, ils doivent vivre aussi ça de leur côté et peut-être que dans quelques temps, on se retrouvera aussi pour partager ensemble certaines choses.
Oui, disons que je mets toujours de l'énergie à essayer de les faire comprendre. Bon, certains ont compris, d'autres un peu moins, mais la vie continue, quoi. Donc, je vais dire, à un moment donné, il faut... Mmh. Voilà.
Je pense qu'il ne faut pas trop mettre d'énergie à essayer de faire comprendre aux autres, mais plutôt vous centrer sur vous et avancer avec cet enfant.
C'est pour ça que je parle d'énergie, en effet, parce que c'est une énergie, Marie-Pierre, qu'on développe à essayer de faire comprendre à l'autre, en effet. Et je pense que votre priorité aujourd'hui, c'est votre enfant, et on le comprend, Kevin, ce petit garçon. Et vous dites dans votre message, je continue à prendre la vie du bon côté pour lui, pour mon fils, quoi, qui a un an aujourd'hui.
Ouais. Ouais.
On se retrouve face à un problème d'incompréhension d'entourage, à Marie.
Oui, à nouveau, et avec une façon de prendre les choses et de rebondir de Kevin qui est très saine et tout à l'avantage de ce petit bout et, et de lui-même, qui est de retrouver effectivement un autre sens à la vie et de retisser de nouveaux liens, de nouvelles relations, de trouver cette affection ailleurs, différemment, et de trouver aussi dans cet enfant qui ne remplacera jamais un adulte, ça c'est certain, mais il gère ça autrement.
Message que nous avons reçu au 3063. Merci en tout cas pour votre témoignage, Kevin. La vie continue. C'est un message qui n'est pas signé. La vie continue et pourtant on se sent coupable et jugé quand on se donne une autre chance avec une autre personne. Mais la vie s'arrête un jour pour tout le monde. Pourquoi donc rester seule pendant des mois? Le mari de ma sœur est mort un mois plus tard. Elle était avec l'amie de son conjoint. Elle est jugée. Je sais que mon beau-frère d'ici ou de là-bas aurait été heureux pour eux deux. Arrêtons de vivre pour les autres et vivons à fond. Voilà ce message qui n'est pas signé. Voilà, je le lis tel quel. C'est un message donc, voilà, qui se doit d'être lu aussi sur antenne dans le flot des autres messages. Comment se reconstruire après la perte d'un être cher? Véronique nous écrit sur la page Facebook. Se surpasser, Sylvie, se distraire, s'obliger à faire plein de choses, du sport et être surtout bien entouré pour éviter la dépression. Avoir du caractère, c'est pas facile pour tout le monde. On l'entend dans votre émission et on entend aussi ces personnes qui déploient pas mal de ressources. Bravo à elles.
Jusqu'à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré.
Avec Marie-Pierre Preud'homme, praticienne en thérapie brève, dont l'hypnose et l'EFT avec une orientation systémique. C'est sur la région de Liège que vous opérez. Beaucoup de personnes désirent...
Non, pas que j'opère.
Que vous opérez. Façon de parler, bien sûr. Vous n'opérez pas, pas encore. Non, vous n'opérez pas. Que vous recevez, voilà. Comment est-ce qu'on dit ?
Pardon.
Que vous pratiquez.
C'était trop tendre.
Que vous pratiquez. Mais oui, bien sûr. Mais vous n'opérez pas encore. Vous avez raison. Beaucoup de personnes nous demandent de les renseigner sur des hypnothérapeutes, sur des régions de Belgique. Je suppose qu'il existe un site qui reprend.
Mais je pense que chacun a un peu son propre site en région bruxelloise. Mais je renvoie toujours chez le docteur Merlot, qui est un de mes formateurs.
Ah oui.
Reste une référence sur Bruxelles et qui lui est aussi dispatché de toute façon.
C'est quelqu'un de Nivelle qui le demande. Donc, ouais. Et si vous voulez prendre contact avec Marie-Pierre Prudhomme, sa page Facebook est en ligne sur la nôtre, sur la page La Vie du Bon Côté. Donc un clic de souris et vous y êtes bien entendu. Alors, on repart dans la discussion qui s'opère aujourd'hui. s'opère à nouveau. C'est un mot finalement, je vais bannir de mon vocabulaire. Dans la discussion qu'on a entrepris depuis 14 heures sur ce sujet, comment se reconstruire après le décès d'un être cher, beaucoup de témoignages. Et on est en train de les lire, on est en train de les lire pendant les informations. Et vous voulez parler de quelque chose d'important, voilà, quelque chose qu'il faut dire, Marie-Pierre. Vous me parlez de ce double deuil que certaines personnes doivent faire. Il faut parfois passer par un double deuil. Dans le cas, dites-vous, d'une idéalisation de la relation.
C'est-à-dire lorsqu'on a vécu une histoire de couple et que l'histoire n'était pas vraiment celle dont on aurait rêvé. En d'autres termes, le prince charmant n'était pas si charmant que ça, et ou la princesse charmante. Hein. Et donc, on va avoir une idée de ce qu'aurait été le couple idéal. Et si le conjoint décède, eh bien, on doit faire le deuil en fait de cette idéalisation, de cette représentation qu'on avait du couple, et faire le deuil de la personne qui n'est plus là.
C'est ça.
Donc, ça veut dire non seulement je n'ai pas vécu ça, mais en plus ce ne sera pas avec cette personne-là. Donc là il y a tout un travail de reconstruction qui va être à faire. Mmh. On peut vivre ça aussi dans le cas on a vu ensemble un témoignage d'un enfant qui n'a jamais connu un de ses parents.
Oui, c'est pour aider mon fils qui n'a pas connu son père, qui est en souffrance depuis plus de 20 ans. C'est un témoignage que vous avez lu. Ouais.
C'est ça. Et donc si l'enfant n'a pas connu un des parents et puis qu'il apprend que ce parent décède, mais il y a ce double deuil qui est à faire. Il y a ce parent que j'imaginais et ce parent que je n'ai jamais connu et je ne le connaîtrai jamais. Mmh. Donc là, il y a un travail. Il y a différentes choses qu'on peut travailler en hypnothérapie à ce niveau-là. Il y a entre autres un travail qu'on fait où, pour faire court, on visualise la personne qui est décédée comme étant sur une scène, et on a un dernier échange avec cette personne-là où on peut lui dire des choses qu'on n'a peut-être pas eu le temps de lui dire, et vraiment se mettre dans sa peau et recevoir un message d'elle. On n'est pas dans des pratiques de spiritisme, hein, on n'est pas du tout là-dedans. C'est un travail qui se joue vraiment purement au niveau de l'inconscient, au niveau des représentations qu'on a de l'autre et de choses qu'on a certainement à régler, parce que ce n'est pas parce qu'une personne meurt que tout est réglé, bien, bien, bien au contraire. Ça, c'est quelque chose qu'on peut croire. Oui, quand la personne sera décédée, il y aura plus ces conflits, etc. Mm-hmm. Non, le décès est plutôt amplificateur, en fait, des conflits qui étaient déjà présents. Et l'hypnose, c'est une façon vraiment tout à fait naturelle, tout à fait saine de se reconnecter à ça et de revivre les choses tout à fait autrement et de pouvoir s'apaiser de ces anciennes situations.
Jocelyne est aussi au téléphone. Bonjour Jocelyne.
Bonjour.
Vous parlez de relations fusionnelles, Jocelyne, quand vous aviez perdu votre mari.
Oui, voilà. J'ai perdu mon mari il y a 4 ans et il nous restait notre petite dernière qui, elle, en avait 16 à ce moment-là. Mmh. Et donc 16-17 et on s'est raccrochés, bien sûr, très fort l'une à l'autre.
Oui, c'est ça, oui.
Mais bon, je sais que je dois la laisser partir, que je dois lui laisser vivre sa vie.
Ce que vous voulez dire, c'est que cette relation fusionnelle que vous aviez avec votre mari, c'est ça, quand il est parti, ça a été une relation un peu fusionnelle aussi avec votre fille cadette.
Oui,
c'est ça. Hein.
Voilà. Oui. Ouais.
Et ça arrive oui, assez souvent aussi.
Ça arrive assez souvent, même quand un couple va mal, de pouvoir se
se raccrocher
quelque part à un autre membre de la famille. Donc ça peut être dans un premier temps une première passerelle, si on peut dire, mais par la suite l'idéal est de répartir un peu cette dose d'affection, si on peut le voir ainsi, et de donner de l'affection à d'autres personnes et de partager cette relation pour pouvoir sortir du fusionnel. Mmh. Donc l'idée n'est pas, quand on est dans la fusion, l'idée n'est pas de d'abord casser et puis reconstruire ailleurs, certainement pas, mais c'est de, par petits pas, s'assurer de prendre d'autres liens à l'extérieur, de développer tout doucement d'autres relations, quel que soit le degré, et de progressivement de reprendre de l'assurance, et puis progressivement on peut sortir de cette relation fusionnelle et de dépendance.
Mais ça, vous en êtes consciente, hein, Jocelyne?
Oui, j'en suis consciente, mais je sais que c'est pour son bien à elle aussi, parce que bon, elle se sent à ce moment-là beaucoup plus responsable de moi, et j'ai difficile à faire les choses sans elle, aller au cinéma ou au théâtre ou quelque part, où je pars quand même en vacances quelques jours ou deux semaines sans elle, mais j'ai difficile, mais je le fais quand même. Mais si je lui dis après que j'ai difficile, elle se sent, ça lui fait de la peine, et elle se sent, je sens qu'elle n'est pas heureuse à cause de ça, quoi. Donc j'aimerais justement
lier d'autres liens, essayer de
trouver une solution pour ne plus, je veux dire, ne compter que sur elle, quoi, voilà.
C'est ça. Donc, c'est vraiment aller vers d'autres relations et créer d'autres liens pour aussi elle.
Oui, ma fille aimerait que je crée d'autres liens, mais moi, je n'en ai pas envie.
Mm-hmm. Oui. Mais c'est juste un conseil, Jocelyne. Mais on comprend aussi que vous êtes, pour le moment, dans une période où voilà, vous n'avez pas envie. Mais attention, en effet, de ne pas trop. Voilà, être fusionnel avec cette fille qui a besoin aussi de prendre son envol, qui aura besoin de prendre son envol à un moment donné, de toute façon, quoi.
Quoi qu'il arrive. Et, voilà, donc c'est un peu la libérer, elle. Mm-hmm.
070 23 33 23, SMS 30 63, si vous voulez vous aussi témoigner. Sylvie écrit aussi son commentaire sur la page Facebook. Je dirais presque que l'on ne se reconstruit pas, dit-elle, dans le cas d'une relation fusionnelle, puisqu'on parlait de relation fusionnelle il y a quelques instants. On vit avec pendant un certain temps, car on n'a pas d'autre choix. On vit comme un automate. Une chose est sûre, c'est que l'on n'oubliera jamais ce conjoint décédé. En ce qui me concerne, nous avions 28 et 27 ans quand mon mari est décédé suite à une maladie. Je n'ai gardé que les bons moments et mis les mauvais dans un tiroir fermé à clé dans une partie de ma mémoire. Mon défunt m'a fait promettre de refaire ma vie, mais ce n'est pas chose facile. Les personnes de l'entourage peuvent aller jusqu'à vous dire que vous trahissez la mémoire de votre défunt, parce que vous refaites votre vie, parce que vous reprenez le cours de votre vie. J'ai refait ma vie, moi, tant bien que mal, et j'ai eu un enfant. Malheureusement, je suis séparée de cette personne maintenant, car mon deuil n'était pas fait du tout. Il a fallu 14 ans pour me réveiller, pour me remettre à vivre, et j'ai 43 ans maintenant. Voilà le témoignage que nous avons lu ensemble.
L'idée de faire son deuil avant de commencer une nouvelle relation est bien entendu vraiment fort, fort importante. Qu'une nouvelle relation ne soit pas entamée dans cette phase où on peut être dans entreprendre et cette hyperactivité et qui est en fait une sorte de forme de gestion du stress. Mmh. Hein. Et voilà, une rencontre qui se fait dans ces conditions-là, ben, peut aboutir, mais malheureusement, sans vouloir être trop fataliste, si le deuil n'est pas fait, c'est beaucoup trop lourd, hein. Une nouvelle relation, mais voilà, que les choses soient légères et se construisent sur des bases beaucoup plus solides que sur un deuil qui n'est pas fait.
À la question « Comment vous êtes-vous reconstruit après la perte de votre conjoint ?» que nous avons mis en ligne sur la page Facebook, pour le moment, la proposition sur laquelle on a le plus cliqué, c'est en acceptant une nouvelle vie, une vie qui ne sera plus jamais la même.
C'est ça. Voilà. Ouais. Accepter vraiment cette différence, et comme c'était mentionné dans le témoignage précédent, on n'oubliera jamais la personne disparue. Par contre, la façon dont on va gérer ce souvenir-là nous appartient. Et effectivement, garder ces bons moments, tout en gardant aussi en souvenir qu'il n'y a pas eu que du bon. Parce que si on rentre dans uniquement les bons moments, alors là, on risque de tomber à nouveau dans cette idéalisation et on peut rester dans quelque chose qui est très très douloureux et qui est de l'ordre du regret perpétuel et je ne retrouverai jamais ça. Non, effectivement, on ne retrouvera jamais la même chose. Mais rester dans un souvenir qui soit réaliste, mais choisir d'arroser, d'entretenir ce qui était le plus beau du souvenir, mais garder quand même à l'esprit que la relation n'était peut-être pas parfaite, quoi.
La vie du bon côté sur Vivacité.
Avec Marie-Pierre Preud'homme, quelques minutes encore, praticienne en thérapie brève dont l'hypnose et l'EFT avec une orientation systémique sur la région liégeoise, surtout la page de Marie-Pierre est en ligne, la page Facebook sur la nôtre, sur la page La Vie du Bon Côté, si vous voulez donc aller en plus voir une petite vidéo, une petite séance sur l'hypnothérapie par rapport au lâcher prise. C'est ce qu'il vous offre, c'est ce qu'on vous donne en guise de cadeau si vous, c'est ça, hein, si vous
oui.
êtes fan de la page. Voilà. J'ai bien compris le principe. Annelise, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Annelise, merci pour votre message au 3063. Vous dites Annelise, j'ai perdu moi une amie après le décès de mon compagnon parce qu'elle n'a pas compris que vous deviez continuer à vivre.
Ça oui. Donc, en fait, mon compagnon était malade pendant un an et demi. Une amie m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup soutenue pendant toute cette période. C'était une période très difficile parce qu'il était à l'hôpital et puis il rentre à la maison, puis il retournait à l'hôpital, enfin bon. Mmh. Et puis il est décédé, il aura 8 ans en juillet. Et puis j'ai voulu changer de vie dans le sens où j'ai voulu changer de milieu professionnel. Et j'ai retrouvé des collègues super sympathiques qui m'ont bien accueilli, qui ne connaissaient pas mon passé. Donc je n'avais pas de questions à ce niveau-là. Et quand je lui racontais que j'étais bien dans mon métier, que j'étais bien dans ma nouvelle orientation, mmh. elle n'a pas compris. Et elle m'a dit, tu es égoïste. Moi, si je perdais mon mari, je ne vivrais plus. Donc voilà, je n'ai pas très bien compris.
Mmh. Oui.
C'est ça, donc on se retrouve encore dans ce cas de figure où l'autre s'attend à un certain type de réaction et s'attend à avoir un rôle dans le scénario.
Surtout ici, la nuit était, Annelise, hein, c'est ça, très, très partie prenante, en tout cas juste dans la période qui a précédé le décès de votre compagnon, c'est ça, hein,
Annelise, c'est ça. Elle était présente. Elle était présente tout le temps pendant sa maladie. Elle m'aidait.
Oui, donc elle a été vraiment, comme vous dites, Marie-Pierre Preud'homme, elle a été vraiment investie aussi.
Elle a été investie et elle a quelque part perdu son rôle parce que Annelise a rebondi et qu'elle a pu vivre les choses autrement.
Oui.
Bon, j'ai choisi de changer de orientation professionnelle. Et quand je lui racontais que j'étais bien dans mon nouveau milieu professionnel, ben, elle n'a pas accepté. Je n'ai pas compris.
C'est ça. Oui, mais c'est un petit peu ce dont on parle depuis le début de l'émission et je vois ça dans les messages. Il y a vraiment, et c'est ce que vous disiez, hein, dans l'entrée de jeu, vous avez donné ces propos-là pour nous faire réfléchir. Voilà, sur l'impact que ça peut avoir, quoi. Donc non seulement il y a cette souffrance par rapport à la personne disparue, mais il y a une autre souffrance par rapport à une incompréhension des personnes autour de nous qui se sont déjà donné une mission, un rôle avant le décès à la limite, et qu'ils ne peuvent pas mener à bien.
Qu'ils ne peuvent pas mener et qui peut les amener à générer certains comportements, voire même une certaine pression pour pouvoir, eux, remplir ce rôle-là.
On n'en fait pas une généralité. Ça ne se passe pas toujours
Absolument.
Comme ça, heureusement. Mais voilà, c'est quelque chose sur laquelle il faut bien réfléchir.
Oui, se dire aussi que ce sont des processus qui se mettent en place de façon inconsciente et qui reposent vraiment sur des intentions à la base très, très positives. Ce n'est pas du tout quelque chose de jugeant, cette réflexion-là.
070-23-33-23, SMS 30-63, si vous voulez encore réagir par rapport au sujet que nous développons depuis 14 heures. On reparlera l'hypnothérapie en quelques mots encore, juste après ceci. Petite conclusion peut-être de ce qui a été dit jusqu'à présent, et peut-être ce qui... Oui, une synthèse de témoignages et de ce qu'on a lu aussi hors antenne, Marie-Pierre.
Oui, moi ce que j'aurais envie de dire, c'est de ne pas attendre d'être en deuil pour s'octroyer le droit au plaisir.
Oui.
De revenir sur cette idée de la fragilité, de la fugacité de la vie, et que chaque instant est tellement précieux. Et de revenir à cette conscience de la mort au quotidien pour justement mieux éclairer la vie. Que ça nous serve à ça. Hein. C'est, je crois, une des fonctions de la mort. Et de revenir à cette idée dans le travail sur le deuil, de pouvoir exprimer, d'oser exprimer le plus clairement possible ce dont on a besoin. De pouvoir dire à l'autre, quand tu dis ça, ça m'aide. Quand tu fais ça, ça m'aide. Ou pas. De pouvoir oser ça, se faire accompagner, et quelque chose qui peut être vraiment très très aidant, qui ne va pas lever la douleur, parce qu'il y a une douleur, on parle de perdre un membre, d'arracher un membre, et c'est quelque chose de qui est là et qui fait vraiment mal. Il n'y a pas de miracle, on ne va pas ne pas avoir mal, mais il y a plusieurs façons de gérer ce deuil. Il y a plusieurs façons de conserver le souvenir de la personne. Et l'idée serait aussi de pouvoir conserver ce que la personne aurait eu envie de transmettre et de remettre de la vie là-dedans. Est-ce que la personne aurait eu envie qu'on parte en vacances ou que je développe ça ou ça comme activité ou que je fasse ça ou ça avec les enfants? Eh bien, je conserve ça et je donne de la vie à ses projets, voilà. De sortir aussi de l'idée d'idéalisation. Attention à l'idéalisation après la perte d'une personne.
Merci Marie-Pierre Preud'homme. Votre page est en ligne sur notre page Facebook. Il y a aussi votre site internet hypnose-liège.com, www.hypnose-liège.com. Merci et à une prochaine fois pour développer notre sujet.
Retrouvez tous vos programmes sur www.vivacité.be.